Le programme qui va suivre vous est présenté par le ministère enseigne-moi.com. Soyez transformés par l'enseignement de la parole de Jésus-Christ.
C'est pourquoi en son nom, je pose les mains sur les malades et ils sont guéris.
Jésus macht frei.
Jésus libère.
Jésus rettet.
Jésus. Nous avons la parole de Dieu qui renverse des chimères, des forteresses.
Qui passe du nom de chrétien au nom d'enfant de Dieu.
Je n'ai ni force, ni raison, ni sagesse pour me relever. Enseigne-moi. Mon être
ébridé. Genèse, chapitre 26, verset 1 jusqu'au verset 22. Il y eut une famine dans le pays, outre la première famine qui eut lieu du temps d'Abraham, et Isaac alla vers Abimélec, roi des Philistins, à Guérar. L'Éternel lui apparut et dit, « Ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. Séjourne dans ce pays-ci, je serai avec toi, et je te bénirai, car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité, et je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham ton père. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à ta postérité toutes ces contrées, et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité, parce qu'Abraham a obéi à ma voix, et qu'il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois. » Et Isaac resta à Guérar. Lorsque les gens du lieu posaient des questions sur sa femme, il disait, c'est ma sœur, car il craignait en disant, ma femme, que les gens du lieu ne le tuent, parce que Rebecca était belle de figure. Comme son séjour se prolongeait, il arriva qu'Abimélec, roi des Philistins, regardant par la fenêtre, vit Isaac qui plaisantait avec Rebecca, sa femme. Abimélec fit appeler Isaac et dit, certainement c'est ta femme. Comment as-tu pu dire c'est ma sœur? Isaac lui répondit, « J'ai parlé ainsi, de peur de mourir à cause d'elle. » Abimélec dit, « Qu'est-ce que tu nous as fait? Peu s'en est fallu que quelqu'un du peuple n'ait couché avec ta femme, et tu nous aurais rendu coupables. » Alors Abimélec fit cette ordonnance pour tout le peuple, « Celui qui touchera à cet homme ou à sa femme sera mis à mort. » Isaac sema dans ce pays. Et il recueillit cette année le centuple, car l'Éternel le bénit. Cet homme devint riche, et il alla s'enrichissant de plus en plus, jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Il avait des troupeaux de menu bétail, et des troupeaux de gros bétail, un grand nombre de serviteurs. Aussi les Philistins lui portèrent-ils envie. Tous les puits qu'avaient creusés les serviteurs de son père, du temps d'Abraham, son père, les Philistins les comblèrent et les remplirent de poussière. Et Abimélec dit à Isaac, « Va-t'en de chez nous, car tu es beaucoup plus puissant que nous. » Isaac partit de là et campa dans la vallée de Guérar, où il s'établit. Isaac creusa de nouveau les puits d'eau qu'avait creusés du temps d'Abraham, son père, et qu'avaient comblés les Philistins après la mort d'Abraham. Il leur donna les mêmes noms que son père leur avait donnés. Les serviteurs d'Isaac creusèrent encore dans la vallée et y trouvèrent un puits d'eau vive. Les bergers de Guérar querellèrent les bergers d'Isaac en disant, « L'eau est à nous. » Et il donna au puits le nom d'Ézek parce qu'il s'était disputé avec lui. Ses serviteurs creusèrent un autre puits, au sujet duquel on chercha aussi querelle, et il appela Sitna. Il se transporta de là et creusa un autre puits pour lequel on ne chercha pas querelle. Et il appela Rehoboth, car dit-il, l'Éternel nous a maintenant mis au large et nous prospérons dans le pays. Amen. Nous avons ici l'histoire d'un pèlerin, Isaac, le fils d'Abraham. Après la mort d'Abraham, il y a des problèmes économiques dans le pays où ils avaient immigré. Et Isaac décide de partir ailleurs pour chercher la vie, le moyen de vivre. Lorsqu'il arrive chez le roi Abimélec, roi des Philistins à Guérar, il veut continuer sa route en Égypte. Mais ce qui est intéressant, c'est que Dieu lui apparaît à Guérar pour lui dire, ne va pas en Égypte. Parce qu'il y a une apparence de pauvreté dans le pays où tu es, mais je te veux là-bas. Parce que c'est là que je te bénirai. Oh, combien de personnes sont venues en Belgique, ont essayé de s'y établir. Ils ont essayé de lancer des affaires, de trouver du travail et même le séjour. Et cela a été difficile et ils ont commencé à former des projets. J'ai déjà rencontré des gens qui me disent, je vais aux États-Unis, je vais au Canada, je vais je ne sais dans quel pays, autre pays d'Europe. Je leur dis toujours, ce n'est pas par hasard que Dieu t'a amené ici. Tu dois savoir que ton passage dans ce pays est probablement dans le programme et dans le plan de Dieu. J'en ai connu qui, après avoir obtenu la grâce de Dieu dans ce pays, le séjour, le travail et tout le confort possible, ont tout bazardé pour aller ailleurs et qui ont connu beaucoup, beaucoup de problèmes. Parce que n'oubliez pas que notre Dieu ne fait pas les choses par hasard. Il dit à Isaac, au verset 2, l'Éternel lui apparut et dit, ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. Je dois vous dire que même nous tous au début de notre séjour, nous étions tentés par d'autres pays. Je me rappelle la première fois que je suis allé à Londres, j'ai dit, Seigneur, pourquoi tu ne m'as pas envoyé dans un pays comme ici? Où il y a une grosse population, où nous pouvons bâtir de grosses assemblées. Tu m'envoies dans un petit pays où il n'y a même pas 1 million d'habitants à Bruxelles. Et puis, combien sont tentés d'aller séjourner en Amérique, à Paris, etc., etc. Dieu lui dit, ne descends pas en Égypte. Pourquoi? Parce que j'ai un programme pour toi, ici à Guérar. Et j'aime le verset 6. Et Isaac resta à Guérar. Je ne sais pas si Isaac avait voyagé avec des amis, qui eux ont continué en Égypte. Je ne sais pas quel conseil les amis lui ont donné, quand il leur a annoncé que le Dieu à qui j'appartiens, m'est apparu cette nuit, m'a demandé de ne pas continuer le voyage, de m'établir ici. Certainement, ils lui ont dit, vous savez, tout est compliqué ici. Tout est difficile ici, chez les Philistins. Mais Isaac resta. Il resta à cause de la parole de Dieu. Il resta à Guérar, à cause de la promesse de Dieu. Laissez-moi vous dire quelque chose. Si Dieu vous a déjà parlé une seule fois qu'il vous veut dans ce pays, en dépit des difficultés, ne vous découragez pas. Reste à cause de la parole de Dieu. Reste à cause de la promesse de Dieu, parce que ce n'est pas par hasard que Dieu peut nous demander de séjourner dans un pays. Alors, au verset 12, Isaac sema dans ce pays. Et il recueillit cette année le centuple, car l'Éternel le bénit. Amen. Je voudrais vous parler un petit peu au sujet de la promesse de Dieu qui nous conduit certainement à la bénédiction. Pourquoi Isaac voulait partir en Égypte? Je l'ai dit tout à l'heure, probablement à Guérar, chez les Philistins, il n'y avait pas d'espérance de réussite. Probablement à Guérar, chez les Philistins, tout était difficile et compliqué. Mais voici ce qu'Isaac a fait. Après avoir obéi à la parole de Dieu, il a semé à Guérar cette année. Voici quelque chose de très important que j'ai découvert dans la parole de Dieu. Savez-vous que Dieu nous a donné sa parole? Et lorsque nous proclamons la parole de Dieu, elle devient source de création et de bénédiction. Voyez ce que je m'imagine. Je m'imagine Isaac semant à Guérar et proclamant la parole de bénédiction que Dieu lui a donnée aux six premiers versets sur ce qu'il semait à Guérar. La différence, frère, entre un chrétien et un païen, c'est que le chrétien a la parole de Dieu, a le pouvoir de la parole de Dieu. Le chrétien peut proclamer la bénédiction à partir de la parole de Dieu sur ce qu'il entreprend. Si vous commencez les affaires, vous n'avez pas besoin de faire des fétiches, vous avez besoin simplement de proclamer la parole de Dieu. La différence entre toi et les autres, c'est que toi, tu as la parole. Et cette parole qui sort de ta bouche par le mandat de Dieu ne retournerait pas sans effet, sans avoir accompli le dessein de Dieu sur toi. Et c'est pour cette raison, dans ce que nous faisons, dans ce que nous entreprenons, ayons l'habitude de proclamer la parole de bénédiction de Dieu sur ce que nous faisons. Bénis tes voyages. Bénis ton inscription dans une faculté. Bénis le début de ton année scolaire. Bénis le travail que tu as commencé à faire. Bénis le quartier dans lequel tu habites et la maison que tu habites. Bénis tout ce qui est à ton pouvoir. Bénis tes enfants, bénis les enfants de tes enfants. Bénis ce que tu es en train de faire maintenant parce que tu as la promesse de la bénédiction de la part de Dieu. Moi, j'imagine que tous les jours, ce n'est pas écrit, mais je l'imagine, Isaac proclamait les paroles de bénédiction sur ce qu'il avait semé. C'est pour ça qu'il est évident que cette année-là, il y recueillit le centuple. Pourquoi? Parce que Dieu le bénit. En d'autres termes, parce que Dieu honora la parole qu'il avait donnée à Isaac. Nous avons un Dieu qui veut honorer la parole qu'il t'a donnée. Vous savez ce que la Bible nous dit? Ceux qui croient en ce Dieu-là, ils ne seront jamais dans la confusion. Ils n'auront jamais honte. N'aie pas peur de proclamer les paroles de Dieu, parce que Dieu ne te laissera pas dans la confusion. Tu n'auras pas honte. Dieu accomplira sa parole. Dieu est toujours derrière sa parole pour l'accomplir. Dieu interviendra dans l'accomplissement de ses promesses et ce que tu fais sera béni. Gloire au Seigneur. Dieu le bénit parce que Dieu devait honorer sa parole dans la vie d'Isaac. Quelle est la différence entre Isaac et les autres? Eh bien, parce que les autres n'avaient pas la parole de Dieu, Isaac avait la parole de Dieu. Pourquoi Isaac a été béni et les autres n'ont pas été bénis? Parce qu'Isaac avait la parole de Dieu et que les autres n'avaient pas la parole de Dieu. Si nous devons parler à notre peuple, par exemple en Afrique, la chose que nous devons dire à nos frères africains, c'est que nous ne devons pas toujours continuer à nous plaindre. Nous devons apprendre à nous lever, à proclamer la parole et à attendre que Dieu agisse selon sa parole, parce que Dieu a toujours, n'est-ce pas, la fidélité sur sa parole. Encore une fois, la différence entre toi Et ce que tu connais, c'est que toi tu as la parole. Eux n'ont pas la parole. Alors, appuie-toi sur la parole. N'y crois pas seulement, mais proclame-la. Dieu le bénit. Au verset 13, cet homme devint riche. Et il alla s'enrichissant de plus en plus, jusqu'à ce qu'il devint fort riche. En fait, il est arrivé à Guérar pauvre. Il est arrivé à Guérar comme tout autre, j'allais dire, réfugié économique, main vide. Mais la différence entre lui et les autres, c'est que lui, il est venu avec la parole. Et la parole de Dieu l'a enrichi. Il a semé, il a eu le centuple. Il a continué à semer et Dieu a continué à le bénir jusqu'à ce qu'il devienne riche. Écoute, la richesse, c'est pas pour les autres, c'est pour les enfants de Dieu. Parce que nous avons la parole de Dieu. Nous pouvons le devenir si nous tenons bon. Il alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devint fort riche. C'est là que je parle aussi de la notion de management. Ce qu'il a appris à bien gérer les premiers résultats de son travail. Ce qu'il a appris quand il a eu les premiers centuples à bien gérer ça. Et puis le second et le troisième et la richesse a augmenté. Le problème, frères et sœurs, vous frères africains, vous savez que la richesse des Africains est une richesse sans lendemain. Il n'y a pas de lendemain. Un homme est riche. Quelque temps après, il devient pauvre. Une richesse sans lendemain parce que nous manquons des notions de gestion et de management. Que Dieu nous aide à être de ceux-là. Quand Dieu te bénit, ta richesse a des lendemains. Verset 14. Il avait des troupeaux de menu bétail et des troupeaux de gros bétail. Et un grand nombre de serviteurs. Où a-t-il eu ses serviteurs? Là-bas. À Guérar. Vous savez que si nous, étrangers dans ce pays, nous commençons à bâtir des entreprises et à procurer de l'emploi aux autochtones de ce pays, nous serons félicités, applaudis et respectés. Et c'est ça qu'il a fait. Il a commencé à être un opérateur économique dans un pays étranger et il a commencé à être un employeur. Il a donné de l'emploi aux Philistins au lieu qu'il soit toujours le demandeur. Cette année-ci, en 2005, que Dieu nous donne de changer notre mentalité alors que nous prions pour la bénédiction. Que notre bénédiction ne se limite pas seulement aux cravates et aux vestes, mais que notre bénédiction soit que nous puissions avoir l'intelligence de créer les entreprises et d'être des employeurs et de donner du travail aussi aux gens de ce pays. Est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible, parce que nous avons aussi la parole de Dieu. Et il a été tellement béni. Au verset 14, que les Philistins lui portèrent envie. Voyez, vous savez, un jour je suivais une émission en Amérique. On projetait les Noirs et les Blancs en Amérique. Et puis on a posé la question à un Noir. Comment vous sentez-vous au milieu des blancs? Il a dit, très bien. On ne vous ferme pas la porte. Il a dit, mais non, quand tu as l'argent, toutes les portes s'ouvrent pour toi. Personne ne me ferme la porte. Le problème, c'est que tant que nous acceptons la tare de la malédiction, ici je parle aux Africains, et je crois quand même qu'il y a une malédiction qui pèse. Avant, je ne croyais pas à cela. Mais de plus en plus que je grandis, je crois à cela. Parce que quand je vois comment nos pays se développent, entre guillemets, il y a là un problème. Malgré cela, nous ne devons pas nous croire, nous devons plutôt proclamer la parole de Dieu. Si Dieu nous donne la véritable bénédiction, on ne parlera pas de toi avec mépris. Au contraire. Voyez, on l'a même chassé. A commencé à fermer les puits. Et puis, si vous lisez la suite, le point suivant, le courage et la détermination lorsqu'on sait qu'on est porteur de bénédictions. À partir du verset 15, il est dit, tous les puits qu'avaient creusés les serviteurs de son père, du temps d'Abraham, son père, les Philistins les comblèrent et les remplirent de poussière. Qu'a-t-il fait? Ah, on ne m'aime pas dans ce pays, alors je m'en vais. Non. Lorsqu'on se sait béni, on est revêtu de courage et de détermination pour recommencer. Même ce qui est détruit. Faites un accident, votre voiture est déclassée par mégarde. Vous n'aviez pas fait l'assurance omnium. C'est pas grave. Si vous vous savez béni, vous persévérez et vous aurez une autre. Ceux qui se découragent et qui lâchent et qui abandonnent, c'est parce que ils ne voient pas où ils vont. Mais ceux qui ont la bénédiction, ils savent où ils vont. Ils savent qu'ils vont sur le chemin de la prospérité. Dites prospérité. Donc il n'y a rien qui peut t'arrêter sur ce chemin-là. On a comblé tous les puits. Au verset 18, Isaac creusa de nouveau les puits d'eau qu'on avait creusé du temps d'Abraham, son père, et qu'avaient comblé les Philistins après la mort d'Abraham, et il leur donna les mêmes noms que son père leur avait donnés. Il y a parmi nous des gens qui ont besoin de recommencer là où ils avaient arrêté. Peut-être que ce que tu avais commencé à faire, tu as trouvé quelques obstacles et tu as arrêté tout. Non, tu dois recommencer. Là où on t'a bloqué, là où on a essayé de t'arrêter, tu dois recommencer parce que tu as une destination. Ta destination, c'est la prospérité. Ne te laisse pas arrêter par quoi que ce soit, par qui que ce soit. Ce qu'on essaie de détruire, refais la même chose. Si tu fais un voyage et ce voyage-là ne te procure pas suffisamment de bénéfices, recommence encore le même voyage dans la même direction jusqu'à ce que tu auras des bénéfices. Parce que tu as une destination. Ta destination, c'est la prospérité. Le courage. Car une personne qui est porteur de la bénédiction. Au verset 19, les serviteurs d'Isaac creusèrent encore dans la vallée et y trouvèrent un puits d'eau vive. Les bergers de Guérar querellèrent les bergers d'Isaac en disant, l'eau est à nous. Et il donna au puits le nom d'Ézek, parce qu'il s'était disputé avec lui. Ça veut dire qu'il les a laissés ce puits-là. Mais il n'arrête pas là-bas. Au verset 21, ses serviteurs creusèrent un autre puits. En d'autres termes, il leur disait, nous avons creusé le puits, on nous a pris le puits, nous sommes découragés, on s'est même chamaillé avec eux, nous arrêtons, dit, allez, faites 5 kilomètres, recommencez, creusez un nouveau puits. Et c'est ainsi qu'ils sont allés, creuser, jusqu'à ce qu'au verset 22, il dit, il se transporta de là et creusa un autre puits pour lequel on ne chercha pas querelle. Et il appela Rehoboth, car, dit-il, l'Éternel nous a maintenant mis au large et nous prospérons dans le pays. Moi, j'ai l'impression que Dieu essaye de nous tester notre endurance, notre détermination, avec toutes sortes de blocages que nous vivons. Mais tu dois savoir qu'un jour va venir où ceux qui essayent de t'arrêter vont se fatiguer. Et tu vas dire, Rehoboth, maintenant je reste tranquille. Maintenant on me fait plus rien. Alors n'arrête pas, persévère, parce que Dieu est en train de te suivre dans cette marche. C'est Dieu qui t'a appelé pour la prospérité, il te suit dans la marche, et c'est pour cette raison ce que Isaac a essayé a réussi. Eux, ils lui ont volé ça, mais il a continué. Peut-être que vous êtes pasteur. Vous gagnez des âmes, et puis il y a des gens qui viennent tourner autour des âmes que vous avez gagnées. Ils vous les prennent. Vous faites quoi? Je veux fermer l'église? Parce qu'on me prend tous les gens que je gagne? Non. Il faut continuer à évangéliser et gagner de nouvelles âmes. Jusqu'à ce qu'ils seront fatigués. Et ton église va se remplir. Vous êtes responsable des cellules? Ceux qui essaient de venir chez vous, un autre chef de cellule qui est encore plus malin vient vous les piquer. Mais il faut continuer. Quand nous sommes appelé pour la destination de la prospérité, on ne s'arrête pas par les blocages extérieurs. Tu es dans un travail, il y a une concurrence accrue. Vous qui êtes, je sais pas moi, des commerçants, vous avez des clients à vous. Vous qui êtes des assureurs, etc. Vous avez des clients à vous. Et puis quelqu'un se lève, vous prend vos clients. Ne déposez pas le bilan. Continuez à chercher de nouveaux clients. Jusqu'à ce qu'ils vont se fatiguer. Alors, au verset 24, on nous dit, alors l'Éternel lui apparut dans la nuit et dit, je suis le Dieu d'Abraham, ton père, ne crains point, car je suis avec toi, je te bénirai et je multiplierai ta postérité à cause d'Abraham, mon serviteur. Il bâtit là un autel, invoqua le nom de l'Éternel, y dressa sa tente, et les serviteurs d'Isaac y creusèrent un puits. Voyez comment Dieu fait les choses. Il se manifeste à Isaac au début. Ne va pas en Égypte, reste à Guérar. Et puis Isaac sème, proclame la parole de Dieu, il a la bénédiction, il a une grande moisson. Les combats commencent contre lui. Qu'est-ce que Dieu dit? Rien. Tout le monde l'en veut. Alors, j'imagine Isaac étant, n'est-ce pas, évangélique ou pentecôtiste comme toi. Il jeûne pour demander à Dieu, qu'est-ce que je fais? Il termine le jeûne de 40 jours. Dieu ne lui dit rien. Et puis il dit, ah, on a programmé le mois de prière, je vais aller à la prière. Il vient, il passe tout le mois à prier. Au 31 décembre 2004, Dieu ne lui dit rien. Donc, toutes ces difficultés qu'Isaac est en train de traverser, Dieu reste silencieux. Ne lui apparaît pas. Mais parce qu'Isaac a persévéré dans la destination de la prospérité, Dieu ne l'a pas abandonné. Dieu ne l'a pas rendu confus. Dieu ne lui a pas fait la honte. Il creuse, il trouve. Vous avez déjà imaginé que vous essayez et vous voyez des résultats. Mais les gens viennent, ils détruisent tout. Vous essayez encore et vous avez des résultats. Et les gens viennent, ils détruisent tout. Il y a de ces gens-là qui disaient, quelqu'un qui me disait, il suffit que je trouve un fiancé. Et puis après quelques temps, quelqu'un pense. Et puis ça ne s'arrête pas là parce que tu trouves encore un deuxième. Mais pourquoi tu as trouvé un deuxième? Parce qu'il y en a qui ne trouvent qu'un seul quand il a fui. Elle ne voit rien venir. Mais toi, tu as un deuxième qui vient, un troisième qui rôde, etc., etc. C'est un clin d'œil de Dieu qui te dit que tu es sur la route de la prospérité. Alors ne te décourage pas. Il ne faut pas te dire, on va m'arracher encore celui-ci. Même si on te l'arrache, Dieu t'enverra un autre. Alors Isaac a persévéré. Chaque fois il creuse, il trouve un puits. Vous savez, les Philistins creusaient, mais ils ne trouvaient pas de l'eau. Pourquoi ils arrachaient les puits d'Isaac? C'est parce qu'eux, ils ne trouvaient pas de l'eau. Tu as la bénédiction qui te suit. Dieu te fait un clin d'œil. Persévère dans tes difficultés. La leçon importante ici, c'est la persévérance dans tes difficultés. Ne lâche pas parce que les temps sont durs. Non. Jusqu'à ce que un jour, dites un jour, Dieu lui donne Rehoboth. On lui fait plus querelle. Il dit, ah, maintenant nous allons prospérer. Et du coup, Dieu lui apparaît pour lui renouveler les promesses. Peut-être que ce sera après ce réveillon, quand tu vas rentrer chez toi, dormir un peu, puis tout à coup, les visions que tu avais avant là, ça va venir. Tu dis, oh, mais c'est comme avant. Oui, Dieu avait laissé pour voir si tu es persévérant. Parce que la Bible dit que les lâches, hein, ils n'hériteront pas le royaume des cieux. N'est-ce pas? Dans la liste de ceux qui n'entrent pas dans le royaume des cieux, il y a les lâches. C'est-à-dire que c'est des personnes qui abandonnent. Parce qu'ils ne veulent pas se battre. Ils sont lâches. Dieu veut que tu sois persévérant. Et à la fin, Dieu lui apparaît. Et j'aime bien ce jeune homme. Au verset 25, il bâtit là un autel. Invoqua le nom de l'Éternel. Et y dressa sa tente. Prendre à dresser sa tente à côté de l'autel où Dieu t'est apparu. Une fois j'avais parlé qu'il y a des gens qui, quand ils cherchent sa maison, ils vont loin de l'église. Mais c'est l'église qui t'a apporté la bénédiction. Maintenant tu vas vivre loin de l'église. Après tu dis, je n'arrive plus à trouver le temps parce que je vis loin. Attention! Les gens qui sont sur le boulevard de la prospérité, ils apprennent à dresser leur tente à côté de l'autel, là où Dieu les a apparus. Si tu as des projets de chercher un appartement, cherche à côté de l'autel. Et là, il dresse sa tente à côté de l'autel, comme ça il peut prier facilement ce Dieu-là. Cette année-ci, nous voulons croire à la grande bénédiction que Dieu veut donner à son peuple. C'est une année spéciale. Selon ce que nous savons de Dieu, plusieurs personnes vont être étonnées. Ça sera une explosion de bénédiction, mais Dieu envoie ce message de courage parce que pour certains, ils ne verront cette explosion qu'après beaucoup de luttes et de combats. Donc tu as besoin, alors, quand les luttes et les combats vont commencer sur le parcours vers ta bénédiction et ta prospérité, de dire, je ne lâche pas, je recommence, je continue, jusqu'à ce que tu arrives à Rehoboth. Et ma prière, c'est que tu arrives à Rehoboth avant le 31 décembre. Et ainsi, tu vas jouir de l'explosion de tes bénédictions. Gloire au Seigneur. Alléluia. Alors nous inclinons moi dans la prière. Peut-être que les uns et les autres se sont reconnus. Eh bien, engage-toi simplement devant le Seigneur. Jusqu'au bout, je veux te suivre. Dieu. Voici, nous voici dans cette nouvelle année. Avec tout plein de projets qui sont dans ce panier. Avec tout plein d'ambitions. Mais nous voulons premièrement recevoir ta parole. C'est de nous donner la capacité d'utiliser ta parole pour provoquer ta bénédiction. Ta parole est créatrice. Nous voulons marquer la différence avec les autres. Parce que la parole que tu nous donnes, c'est celle-là qui fait la différence. Là où c'est aride, parce que nous proclamerons la parole de la fertilité, eh bien ce lieu sera fertile. Là où c'est désert, parce que nous proclamerons ta parole, eh bien le désert sera transformé en un lieu habitable. Là où il y a de l'eau amère, ta parole proclamée sur l'eau amère transforme cette eau amère en eau douce. Là où économiquement les autres n'arrivent pas à décoller, ta parole produira des sources de prospérité et de bénédiction. Seigneur, je prie pour que ton peuple reçoivent la même bénédiction d'Isaac, bâtissent les entreprises, fondent, Seigneur, des sociétés, et puissent, dans la persévérance, voir la bénédiction les conduire à Rehoboth. Je prie pour ceux qui sont découragés. Déjà, cette année qui vient de s'écouler, que tu leur donnes encore la force de reprendre, de recommencer, de refaire la même chose. Mais cette fois-ci, dans l'espérance de ta bénédiction, en proclamant la parole de bénédiction. Nous prions pour que ceux qui vivent dans la stérilité, qu'elle soit spirituelle ou physique ou matérielle, eh bien tu puisses leur combler de toutes sortes d'abondance et de fertilité. Nous bénissons ton peuple au nom de Jésus. Amen.